Aujourd'hui, coup de projecteur sur les maisons d'édition indépendantes avec le festival Haut les Livres, organisé par les libraires d'en haut. Dans ce cadre, nous nous retrouvons au Légendarium, librairie spécialisée dans l'imaginaire, à Arras, pour rencontrer Émilie Anciot, des éditions Livresse, et Marc Falvaux, des éditions Faute de Frappe. Interview croisée pour découvrir leurs univers et leur travail, réalisé le 17 mai 2024.
Ok, mais allez, je commence. Moi, je gère la maison d'édition Livresse Édition, qui est une maison d'édition indépendante belge, qui a été lancée en janvier 2015. Alors, ce qu'on fait, c'est de l'imaginaire. C'est vraiment de l'imaginaire et de la littérature de genre, mais pour tous les publics. Donc, à savoir qu'on a des collections jeunesse avec des albums illustrés, on a des romans pour ados, jeunes adultes, et on a aussi quelques collections avec des romans ou des nouvelles qui sont vraiment axées public averti, voire très averti. Et comment je l'ai lancé ? Alors moi, à la base, je suis autrice et donc j'écris depuis très 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 longtemps et j'ai commencé à... J'ai écrit un premier roman et en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Je l'ai imprimé, je l'ai envoyé non corrigé à plein de grosses maisons d'édition sans vérifier la ligne éditoriale. Je me suis pris plein de refus à part quelques acceptations de contrats à compte d'auteur. Et j'ai publié donc mon premier roman chez mon petit éditeur. Bon, c'est pas bien de leur faire de la pub, mais bref, c'est grâce à eux, entre guillemets, que je me suis lancée dans ce milieu-là. J'ai fait mon premier roman chez mon petit éditeur. J'ai tourné dans les salons du livre pendant 2 ans. Ouais, 2 ans, vu qu'il est sorti en juillet 2013. Puis j'ai sorti mon deuxième tome, c'était une trilogie. J'ai sorti mon deuxième tome chez un petit éditeur indépendant. Mais aussi, pareil, contrat participatif, donc vraiment pas l'idéal. Et pour le troisième, en fait, je me suis dit, ben, quitte à tout faire tout seul, autant ouvrir sa maison d'édition. Pendant les 2 ans où j'ai tourné en salon, j'avais eu pas mal d'échos négatifs par rapport à l'auto-édition. Parce que, surtout à l'époque, là, ça commence à aller un petit peu mieux, j'ai l'impression, mais surtout à l'époque, c'était très très mal vu. Et surtout, je me suis rendu compte que c'est vraiment tout le processus éditorial qui me plaît, vraiment de découvrir un petit manuscrit, une petite pépite, et de se dire comment est-ce qu'on peut sublimer et en faire une belle histoire, un beau roman, un bel objet, un beau livre. Et voilà, donc du coup, j'ai lancé ma maison d'édition en l'ouvrant vraiment à tout le monde. Et voilà, ça s'est lancé. Alors j'ai pris la décision de l'ouvrir le 14 novembre 2014 et le 2 janvier 2015, c'était fait. Donc ça a été relativement rapide. Et à l'ouverture des manuscrits, j'ai eu 152, je crois, ou 151, je ne sais plus, manuscrits. Et donc là, voilà, c'était lancé. On a reçu un peu de tout, ce qui fait que ça m'a conforté vraiment dans l'idée de laisser vraiment la ligne éditoriale très très large, même si on garde un focus sur l'imaginaire.
Alors ça va être un peu de la redite sur certains points. Je me rends compte qu'on a des parcours pas tout à fait similaires, mais avec des ponts, voilà. Donc Marc Falvaux, auteur aussi d'abord, mais là maintenant surtout éditeur, de Faute de Frappe, qui fête ses 5 ans cette année, qui est basé à Lille, même si on est de moins en moins une maison d'édition locale, voilà. On va voir ailleurs où on est, si on y est. Et on fait surtout, alors là, bon, c'était un peu plus large avant, mais là, nous, on a plutôt tendance à rétrécir le spectre. On est vraiment plutôt sur du thriller et de l'horreur, mais autant pour adultes que pour la jeunesse aussi. Après, mon parcours en quelques mots, si on se cantonne au roman, parce que j'ai fait d'autres trucs avant, comme toi aussi, mais on n'est pas là pour faire le CV complet... roman, première publication en 2013, voilà, en tant qu'auteur, la même année que toi, mais je t'ai précédé de 3 mois, c'était en avril pour moi, voilà. Et puis pareil, petit éditeur local, 1, 2, 3, au final j'en ai eu 6, j'ai eu 6 éditeurs, j'ai sorti 25 bouquins en 5 ans, voilà. Et en fin 2018, a été pris la décision de monter ma maison d'édition. De toute façon, c'était soit j'arrêtais tout, soit je me mettais à mon compte. Donc j'ai préféré ne pas tout arrêter. Et donc depuis, j'écris toujours, mais à dose homéopathique. Je suis surtout éditeur. Voilà. Maintenant, c'est vraiment ça mon boulot. Autant pour promouvoir les bouquins qui sont déjà là et les auteurs déjà là que pour chercher voilà, de nouvelles plumes ou d'amener au public francophone des bouquins qui n'ont plus... auxquels ils n'ont plus accès, voilà.
Tous les deux, quand vous vous êtes lancés dans l'édition, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été accompagné ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une solidarité dans les éditeurs indépendants ? Ou est-ce que ça a été vraiment un combat solitaire face
pas,
à...
En tant qu'auteur, quand on s'est lancé en...
En tant qu'éditeur.
En tant qu'éditeur, ok.
Oui et non. Alors, elle est compliquée cette question, parce que oui, évidemment, il y a des gens qui t'accompagnent, qui vont t'aider, qui vont te donner les bons tuyaux. Mais c'est comme dans n'importe quel milieu professionnel, il y a aussi des gens de peu de foi, on va le dire comme ça, qui vont faire en sorte que tu réussisses pas, en fait, ou en tout cas qui vont essayer. Donc je pense que le milieu de la littérature n'est pas différent des autres milieux, à mon sens. C'est un milieu artistique, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en soi, on retrouve les mêmes gens très gentils qui vont t'accompagner et les mêmes autres très méchants qui vont essayer de faire en sorte que ton business ne marche pas. Et c'est vraiment un des points essentiels, je pense, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir de la chance. C'est un peu le facteur chance, c'est de tomber sur les bonnes personnes. Quand l'Ivresse Édition s'est lancée, moi, j'ai eu de la chance. J'ai ce défaut de pas trop déléguer, de pas trop aller chercher des conseils. J'apprends sur le tas. Je vais chercher les conseils là où ils sont et je prends exemple sur ce qui fonctionne ailleurs. Et je discute beaucoup avec mes collègues. Mais en soi, quand je me suis lancée, j'ai pas trop demandé de conseils, ce qui fait que j'ai fait parfois sur certains points n'importe quoi et sur d'autres, il y a des choses qui ont bien fonctionné.
Je crois que je vais arrêter de te laisser répondre d'abord. Parce que... voilà. Blague à part. Monter sa maison d'édition, comme monter n'importe quelle entreprise, c'est pas facile. En plus, quand t'es déjà auteur, clairement, on se fout de toi, voilà. Ou alors, enfin moi, c'est un peu ce qu'on m'a dit quand j'ai monté, et c'est ce qu'on a dû te dire aussi, c'est pour t'auto-éditer. Donc tu te crées un piédestal sur lequel tu vas pouvoir grimper. Alors je dis pas que, clairement, moi j'ai monté Faute de Frappe à un moment où... je voulais plus être édité par d'autres. Alors oui, c'est vrai qu'au départ, le véhicule, il a été pour moi. Ok, certes. Mais en fait, très vite, ça s'est ouvert. Et puis très vite, tu te rends compte que plus ça s'ouvre, plus c'est cool et plus c'est dur, en fait. Et que j'en suis arrivé à un moment, bah là, on est une quinzaine d'auteurs à l'heure actuelle. Plus de 35 titres au catalogue. On va arriver à la quarantaine avant la fin d'année. Ça tourne. C'est-à-dire que pour, vu notre réseau, vu notre âge, vu les moyens, ça va. Ça, c'est même de mieux en mieux, mais ce n'est pas plus facile. Parce que finalement, plus tu progresses, plus tu avances sur la route et plus tu tombes sur d'autres écueils, d'autres problèmes, d'autres trucs que tu n'avais pas vu venir. Moi aussi, hein, y a des trucs, vu que je ne sais pas déléguer, enfin, je sais un peu plus maintenant. Mais je suis en train d'apprendre à déléguer. Moi aussi, j'ai fait n'importe quoi. Puis après, tu assumes parce que c'est ton pognon, de toute façon, donc c'est toi qui payes. Voilà. Donc c'est tout, il faut faire avec. Et puis, et finalement, bon, c'est un gros cliché, mais je crois que tu apprends plus de tes échecs que de tes réussites. Parce que des fois, tu réussis des trucs, tu sais pas trop pourquoi. Par contre, quand tu as foiré, tu sais pourquoi. Voilà. Donc c'est plus formateur, voilà, je trouve.
Attaquer l'auto-édition, ça suscite des réactions négatives apparemment du milieu. Est-ce que vous avez l'impression que ça a une mauvaise réputation de s'auto-éditer ?
J'ai fait partie de ceux qui disaient que tous les auto-édités étaient des vieux ringards. Voilà. J'en ai fait partie. Voilà. Je suis parfaitement transparent. Moi, j'avais le rêve de devenir un auteur riche et célèbre. Mais je dis ça pas pour faire une vanne. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, je me voyais vraiment jeune premier, riche et célèbre, découvert par un grand éditeur qui se balade en voiture de luxe. Voilà. Bon, certes, ça fait rire comme rêve. Mais dans ce modèle-là, le fait d'avoir soi-même à s'éditer, finalement, d'avoir à faire autre chose que juste écrire, mais avoir à s'occuper de l'administratif, de la mise en page, de la relecture, de la promotion, ça me paraissait vraiment relever de quelque chose d'assez bas, en fait. J'étais très con à l'époque, hein. Parce que finalement, je suis fils de commerçant, donc moi je sais ce que c'est que d'avoir une boîte indépendante, et je sais que c'est pas du tout qu'il y a rien de bas dans cette chose-là. Mais j'avais un peu des rêves de grandeur déplacés, on va dire. Avant d'écrire, j'étais dans le cinéma, et pour le coup, les francs-tireurs, ils sont mieux vus. Au contraire, il faut être franc-tireur, il faut être multicarte, il faut être de tout ça, et tu fais plus facilement ton trou. C'est vrai que dans la littérature, on a un peu ce cliché de l'auteur un peu fragile et un peu précieux, et qui sait rien faire d'autre qu'être assis dans sa robe de chambre en train de pondre un nouveau chef-d'œuvre. Et c'est pas quelqu'un qui met les mains dans le cambouis. Et en fait, quand t'es auto-édité, tu dois mettre les mains dans le cambouis. Et donc, c'est pour ça que c'est mal vu. Alors, c'est bête ou pas bête, après on en pense ce qu'on veut. Mais j'en ai fait partie, et sauf que ce qui est bien, c'est que je vois que c'est en train de changer. Mais aussi parce que le vocabulaire change. Maintenant, on ne dit plus les auto-édités. Les auto-édités se définissent comme des auteurs indépendants. Et je trouve que c'est beaucoup plus raccord avec la réalité du truc. Parce que auto-édité, déjà c'est moche comme mot, et puis ça fait un peu branlette. Alors que auteurs indépendants, ce sont des auteurs qui ont décidé, en toute indépendance, d'écrire et de publier des bouquins et de les vendre. Et je trouve ça beaucoup plus, comme on dit éditeur indépendant, comme on dit libraire indépendant, c'est indépendant de tout système. Voilà. Et ben, je trouve ça plus juste, et c'est peut-être parce qu'on a changé le mot que c'est mieux accepté. Je ne sais pas ce que tu en penses.
C'est vrai que ça évolue. Alors, je n'avais pas réfléchi au fait que le changement de nom et le fait de dire plutôt auteur indépendant avait une incidence. Effectivement, ouais, ouais,
De plus en plus.
Ouais, c'est vrai.
De plus en plus, tu as des profils de gens qui n'ont eu aucun... Parce que toi, comme moi, on a eu des éditeurs avant.
Ouais, tout à fait.
Mais il y en a qui se lancent sans avoir jamais été édité ailleurs et qui se définissent comme des indés, quoi.
Ouais. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que mettre les mains dans le cambouis, ce soit mal considéré, entre guillemets, parce que, au contraire, peut-être, je trouve que l'auto-édition ou les auteurs indépendants sont parfois mal considérés parce que, comme dans tout, hein, t'as vraiment de tout. Il n'y a aucun contrôle qui est fait, et donc t'as de tout. Donc n'importe qui, et on le voit beaucoup sur les groupes, sur les réseaux sociaux, groupes d'auto-édités, d'auteurs indépendants ou de promotion des livres, où les gens arrivent et disent « bah voilà, j'ai écrit ma biographie, j'ai 20 ans, il lui est rien arrivé de spécial, mais elle a écrit sa biographie, elle estime que le monde doit savoir, doit la lire ». Alors oui, c'est très bien, mais en soi, s'il n'y a pas de retour édito derrière, s'il n'y a pas de correction, s'il n'y a pas une couverture professionnelle, s'il n'y a pas un maquettiste qui travaille, ça va faire un objet au final qui ne sera pas d'une grande qualité. Et à l'inverse, t'as des auteurs indépendants qui font un travail formidable. Moi, je sais pas que je prêche pour ma paroisse, mais j'ai envie de citer Adé Martel, qui est autrice chez nous, qui est publiée également chez Calmant Lévy ou chez Scrinéo, qui à la base est une autrice indépendante et qui a décidé vraiment du jour au lendemain, parce que c'était réfléchi, mais elle s'est vraiment dit, ben maintenant je suis autrice indépendante et je ne vais plus faire que ça. Et donc, du coup, elle se donne les moyens, elle gère sa communication, elle travaille avec des professionnels, des correcteurs professionnels. Et du coup, ses objets livres et ses romans, qui sont en auto-édition, eh ben, ils sont d'une qualité vraiment complètement équivalente à ce qu'on peut trouver en maison d'édition. Le souci de la mauvaise image, entre guillemets, c'est qu'on trouve un peu de tout et qu'on a cette impression qu'il n'y a pas eu de contrôle derrière, qu'il n'y a eu personne pour dire aux auteurs « ben non, désolé, ça, c'est pas bon, il faut retravailler ». Et d'ailleurs, c'est... En tant qu'éditrice, ça m'est déjà plusieurs fois arrivé, d'avoir des soumissions de manuscrits, d'objectivement de trouver qu'il y a un souci de rythme, de style, que c'est bourré de fautes et que rien ne fonctionne. Et on m'a répondu, ben, c'est parce que vous n'avez pas su voir que j'ai écrit le prochain chef-d'œuvre et je vais l'autopublier du coup. Ben non, c'est pas la bonne réaction à avoir. Après, voilà, c'est personnel.
Non, mais c'est ça. En fait, je pense que des gens qui écrivent des textes sans intérêt, il y en a toujours eu. Des gens qui pensent avoir des choses à dire, alors que non, il y en a toujours eu. Simplement, à une autre époque, je ne suis pas du tout passéiste, hein, mais à une autre époque, ils balançaient leurs textes chez les éditeurs, c'était pas pris, et puis c'est tout. Maintenant, le développement de l'auto-édition fait qu'il y a quand même une possibilité, il y a un nouveau débouché, gros débouché, et d'apparence facile, ça paraît facile, ça ne l'est pas, hein, mais ça paraît facile, bah, qui fait que bah, ces textes qui peut-être n'ont rien à faire entre les mains de quelqu'un d'autre que celui ou celle qui l'a écrit, se retrouvent à être proposés, alors je ne dis pas vendus, mais au moins proposés, et à sortir, et à finalement se retrouver aux côtés de, bah, d'autres bouquins, alors pour le coup, soit d'indé ou de maison, ou même de grands groupes. Hein, c'est un peu comme si tout était mis voilà, au même niveau. Et c'est le temps qui juge, voilà, c'est le temps qui juge. Mais donc c'est aussi une question technique.
L'interview continue après cette plage musicale, restez avec nous. Vous êtes toujours sur Radio PFM à l'écoute de l'entretien croisé des éditions Livresse et Faute de Frappe. La suite, tout de suite.
C'est important aussi, du coup, de rappeler s'il y a des auteurs ou des autrices qui écoutent, qui vont écouter, que il faut pas se précipiter et il y a tellement de gens qui jouent là-dessus, qui se disent éditeurs et qui jouent sur l'envie vraiment de voir son roman publié parce que, bah, voilà, écrire, c'est souvent un rêve de gosse, c'est souvent l'aboutissement, c'est souvent le rêve de toute une vie. Et du coup, il y en a parfois qui reçoivent une proposition de manuscrit, enfin de publication, ça va leur coûter 3500 euros, et ils se disent, bah, tant pis, ça va me coûter 3500 euros, mais au moins j'aurai mon bouquin. Il ne faut pas signer des contrats. Si on vous demande de payer pour être publié, il ne faut pas le faire. Sauf si, évidemment, vous êtes riche à million et que vous vous en foutez.
Mais la pédagogie, en plus, c'est bien.
Mais non, mais je trouve ça hyper intéressant parce que même encore maintenant, malgré... malgré les réseaux, malgré le fait qu'on le dise dans plein de groupes, etc., j'en vois encore passer tous les jours qui disent « Ah, oh, ben, j'ai reçu tel contrat à 3500, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ?» Non, 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 même 500 euros,
oui,
c'est trop.
Et tu remarqueras que si tu parles de publication Facebook, tu as 50 personnes qui commentent la publication en disant « C'est de la merde, c'est une arnaque, n'y va pas. » Et au bout d'un moment, la personne qui a mis le post commente en disant « Ouais, vous avez peut-être raison, mais quand même, je pense que je vais quand même y aller. » À 9 fois sur 10, c'est comme ça. Parce que t'as... C'est pour ça que moi, j'ai aucune empathie envers eux, en fait. Voilà. C'est que t'as beau leur dire, ben, ils y vont. Parce que le désir d'avoir son nom sur un tas de feuilles, c'est comme ça. Je pense même que c'est comme ça que je le dis dans un des bouquins que j'ai écrit. Comme quoi, c'est juste avoir son nom sur un tas de feuilles. Et ce désir-là, il est plus fort que tout chez certaines personnes. Donc t'as beau dire que payer pour non, que ça va être fait n'importe comment, ce sera pas défendu, juste ça va tomber dans les limbes, t'arriveras pas à les convaincre.
Ouais, mais je le dis quand même à chaque fois.
Non, mais je sais, c'est ton côté optimiste.
L'une comme l'autre, vous publiez des romans à la fois jeunesse et très adulte aussi. Est-ce que d'un manuscrit à l'autre, ça va impliquer un travail différent, peut-être notamment sur la promotion, mais sur peut-être d'autres choses qu'on voit pas?
Ça implique un travail différent parce que le contenu sera différent et les canaux de distribution seront différents. C'est pas les mêmes librairies. On va pas vendre un court roman gore trash pour public averti au même libraire nécessairement que La Licorne qui cherchait ses couleurs ou Barnabé le moustique, qui sont des albums jeunesse illustrés à partir de 5 ans. Mais par contre, le travail derrière est globalement le même. En soi, il faut s'assurer que la couverture soit jolie, que les visuels soient attrayants, que la correction orthographique, grammaticale, etc. soit bien faite, que la maquette soit correcte, qu'on travaille avec les bons imprimeurs qui vont nous fournir un travail de qualité pour avoir du bon papier, etc. etc.
Dans le fond, je suis assez d'accord, c'est le même boulot. En fait, c'est le si tu parles de niveau d'exigence, il est le même. Du temps passé sur la correction du texte ou sur la couverture ou sur la mise en page ou sur faire des devis, le meilleur devis imprimeur, enfin, c'est la même chose. Mais après, en effet, tu vas pas proposer le même bouquin au même libraire, tu vas pas proposer l'auteur ou l'autrice au même salon, tu vas pas... Oui, mais là, c'est plus... On est dans de la vente. On est dans de la vente. Sinon, ouais, je suis assez d'accord que dans la conception, c'est pareil. Après, dans l'écriture... Alors, j'ai écrit un roman jeunesse, donc je ne suis pas forcément calé. J'ai écrit 50 romans adultes et un roman jeunesse, donc c'est pas, voilà, je ne suis pas du tout un auteur jeunesse. Mais, et puis surtout, celui que j'ai écrit, il est assez trash, je pense, pour un roman pour ados. Mais il y a eu quand même le fait de se dire qu'est-ce qui peut être lu par des ados de 12 ans. Et tout en me disant que si je devais me prendre moi comme exemple à 12 ans, bah moi je disais du gore en fait à 12 ans. Donc est-ce que je suis le meilleur exemple, voilà. Et c'est pas évident en fait comme question. Je sais pas toi, comment tu écris la licorne qui perdait ses couleurs? Comment tu fais?
En fait, moi, quand j'écris, j'ai envie d'aborder un thème. Et ensuite, il y a l'histoire qui se construit un peu autour. Donc la licorne qui cherchait ses couleurs, c'est l'importance d'oser suivre ses rêves. Et l'histoire, elle s'est construite naturellement. Et ensuite, c'est à la correction, en fait. C'est à la relecture, à la correction, à la relecture, où tu t'es dit, ben bon, OK, mon public, c'est telle tranche d'âge, donc tu vas avoir des impératifs. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais des indications sur le nombre de mots par phrase, le temps de conjugaison utilisé, Le vocabulaire aussi, tu vas pas nécessairement utiliser anticonstitutionnellement.
Oui, c'est pas uniquement thématique.
La technique et, et les qualificatifs d'écriture où tu vas retravailler et où tu vas essayer de pas trop. Alors que au niveau adulte, bah, tu travailles sur le style, tu travailles sur la forme, mais t'as pas vraiment de barrière entre guillemets par rapport au vocabulaire ou à ce genre de choses. Mais à part cette petite spécificité-là par rapport à la jeunesse et à l'âge du public visé, en fait, le travail, il est globalement le même. Ouais.
Des fois, tu te fais surprendre. Il y a des bouquins que j'ai écrits pour les adultes qui sont lus par des ados et ils adorent ça. J'ai une série qui s'appelle Kurtz, voilà, Stan Kurtz. C'est un détective privé. Alors, c'est un privé, un peu en mode privé années 50, c'est-à-dire un père chapeau mou, rétro, qui n'a pas de portable, qui n'est pas connecté, qui est une sorte d'alien et qui mène des enquêtes complètement barrées. Je dis ça, ça parle quoi ? Ça parle aux gens comme moi qui vont avoir 40 piges, ça parle aux gens plus vieux, mais ça parlera pas aux jeunes, ce machin-là. Et ben, le fait est que je m'étais complètement gouré. C'est que, sans rien changer, alors que là, pour le coup, ça n'a pas été conçu pour des ados. Donc, en termes de vocabulaire, de style, de contenu, de thématique, j'ai fait comme je voulais, sans aucune censure. Et il y a plein d'ados qui, alors quand je dis ados, c'est, on va dire, entre 12 et 15. Plutôt 15 d'ailleurs, mais à qui ça parle ? Et des fois tu sais pas. Et je pense que le côté un peu anticonformiste du personnage, le côté un peu sale gosse mine de rien, voilà, ça doit leur parler. Mais c'est vrai que c'est pas un bouquin qui a été conçu pour eux, et pourtant ça parle. C'est vrai que tu maîtrises pas en fait.
Quelle perspective vous avez par rapport à ça, le fait que des jeunes puissent éventuellement avoir accès à des romans qui sont pas de leur âge ? Et que ça puisse tout à fait bien se passer.
Nous, en fait, on est principalement une maison qui travaillons alors via notre site internet, mais surtout sur salon. Donc, on rencontre directement les gens. Donc, on peut, en fait, faire de la prévention, entre guillemets. C'est pas vraiment de la prévention, mais on présente les titres. Ça nous arrive très souvent hein, que des ados lorgnent sur nos titres plus 18 ou veuillent absolument acheter un titre public averti. En général, nous, on dit non. Les seuls cas où j'accepte, c'est quand les parents sont là et où j'explique vraiment... Parce qu'en général, bon, on dévoile pas ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Et ça m'est déjà arrivé où j'ai dit aux parents, ben voilà, dans ce livre-là, il y a de la torture, du sexe, du viol, de la violence.
Et
c'est la mélodie. Et j'ai dit à la personne, parce que c'était une jeune fille de 14 ans, et j'ai dit, je pense pas que ce soit utile de se construire et de construire sa sexualité... En commençant par ça, c'est pas un problème d'en lire, c'est pas un problème de voilà, faut être ouvert, mais débuter par ça, c'est peut-être pas la meilleure des choses. C'est comme les jeunes qui découvrent la sexualité avec le porno à 12 ans, c'est pas la meilleure façon d'aborder ça, je pense, et d'aborder la lecture de manière générale. Il y a tellement de choses plus chouettes et plus légères à lire. Après, le maintien dans l'enfance le plus longtemps possible, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, quand on est sur salon, nous, on essaye vraiment de prévenir et puis aussi de s'éviter les retours incendiaires de gens qui vont revenir en disant « Bah voilà, mon enfant, il a lu ça, il est complètement traumatisé. » Ça nous est déjà arrivé d'avoir des adultes qui sont revenus et qui nous ont dit « Ben voilà, j'ai lu votre livre, on m'avait pas prévenu de ce qu'il y avait dedans et j'ai dû arrêter ma lecture. » Donc ben voilà, moi je suis désolée, on prévient, mais on peut pas être partout si les livres sont prêtés par la suite, etc. Et ce qu'on fait, en fait, quand on n'a pas la mainmise, entre guillemets, et qu'on peut pas prévenir directement les gens, c'est qu'on fait on a mis un QR code, nous, au début de tous nos romans. Tous nos romans, même ceux qui sont publics complètement ados, etc., tout public.
Les histoires, mais il y en a
un, ou... Non, pas sur les jeunesses, pas sur les albums jeunesse, quand même. Ça, on a fait cette limite-là. Donc la personne qui veut savoir... Elle scanne le QR code et la personne qui veut pas savoir, elle scanne pas le QR code. Parce que personnellement, j'aime pas être spoilée. Et c'est vrai que si on écrit mot pour mot, noir sur blanc, bah voilà, dans ce livre, trigger warning, c'est ça, ça et ça. Par hasard, bah la personne peut tomber dessus et on le fait pas exprès. Les yeux, ils tombent sur une phrase, on va le lire et on va être spoilé. Donc c'est ce compromis-là qu'on a trouvé pour permettre quand même de prévenir les gens. Il y a certains autres titres où on met carrément public averti sur la couverture, quand c'est vraiment... trop trash à notre goût. Au niveau des libraires, bah, quand on présente les titres, on le dit, on le répète. Voilà, ne vendez pas ça à n'importe qui. Voilà. Mais au-delà de ça, on a un peu de mal d'avoir vraiment un contrôle à 100% là-dessus. Et ça peut être aussi dans l'autre sens, d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé que des parents veuillent absolument faire acheter Doudou le petit dragon à leur fille de 12 ans. j'ai pas de problème avec le fait de continuer à lire des albums, mais la gamine, elle voulait lire autre chose. On avait des titres plus ados qui semblaient l'intéresser, et le père, il était vraiment « Ben non, t'es trop con, prends Doudou, il y a des images. » Et enfin, parfois, on est face à ce genre de comportement et c'est juste insupportable. Mais voilà, on fait ce qu'on peut, mais au final, c'est vrai que c'est les gens qui décident en soi.
Mais parce que j'en ai aussi des comme ça, mais il ne faut pas me lancer là-dessus. Non, mais blague à part, bah pareil, faute de frappe, vente pas mal sur dédicaces en salon et en événements, conventions. Alors, c'est un peu moins vrai depuis le début d'année parce qu'on a signé avec un diffuseur-distributeur qui va mettre nos bouquins dans les librairies. Donc là, on aura encore moins de contrôle qu'on en a à l'heure actuelle sur là où ils seront et qui va les acheter. Donc, pour cette partie-là, je ne peux pas dire. Et mais c'est vrai qu'en salon, bah, je t'en ai déjà un peu parlé. C'est-à-dire que moi, j'ai été un ado qui a lu des bouquins qui n'étaient pas faits pour les ados. La question, j'allais dire problème, mais ce n'est pas un problème. La question s'est posée. Bah, depuis le début d'année, on a sorti une collection qui s'appelle Compact. C'est de la novelisation de films d'horreur. Et le premier volume qui est sorti en janvier, c'est La nuit des morts vivants. Donc d'après le film mythique. Et j'ai eu plusieurs fois sur des salons des ados de 13-14 ans qui voulaient me le prendre. Sauf que c'est l'âge auquel je l'ai découvert. Et puis La nuit des morts vivants, je sais que c'est pas... Alors certes, c'est du zombie, certes, c'est de l'horreur, c'est noir. Mais c'est pas non plus... C'est pas de la perversion, c'est pas de la torture, enfin, c'est pas ça. Et donc je dis, qui je suis moi pour interdire à un ado de 12-13 ans de lire ce que moi je disais à son âge? Donc moi je trouve que j'ai pas, voilà, je suis pas, même si j'aime bien l'idée de ton QR code, mais j'en suis pas là. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains de nos bouquins sur lesquels il est marqué pour un public averti, comme ça au moins tu l'as dit. C'est dit, c'est marqué. Après tu le vois pas, peu importe. Là c'est toi qui fais ton truc. Mais j'estime que quand tu vends un bouquin, tu dis bien que c'est une famille de tueurs en série qui part en vacances. Bon, voilà. Et que c'est trash dès la première page. Bon, bah, une fois, tu l'as dit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les gens sont aussi libres. Enfin, libres. Les gens sont responsables. Voilà. Et si en plus, tu as les parents à côté et que les parents, ça ne les dérange pas et que l'ado, il veut, eh bah, s'il veut, il veut.
L'interview se poursuit après un nouvel intermède musical. Restez avec nous sur le 99.9.
Thank you.
L'interview croisée des éditions Livresse et Faute de Frappe, c'est aussi quelques questions de lecteurs, et c'est tout de suite sur Radio PFM.
On s'intéresse fort au milieu de l'édition, du coup on voudrait savoir comment se passe une journée type en tant qu'éditeur.
À notre niveau, évidemment, ça ne va pas être la même réponse si tu vas chercher chez des grosses, grosses maisons d'édition type Gallimard et compagnie. Dans des petites maisons d'édition, on est multitâche en fait. Donc, il peut arriver que je fasse une journée complète où c'est que du travail éditorial ou une journée complète où ce sera de la création de visuels pour les réseaux sociaux, de la préparation de campagnes de communication ou simplement aller dans mon stock et trier les bouquins parce qu'il faut faire un inventaire. Les journées sont très, très variées. C'est à la fois ce qui est intéressant dans le métier d'indépendant et ce qui est un peu dangereux, entre guillemets, parce que ben, il faut vraiment avoir une dynamique et une discipline pour se dire ben, voilà, je ne vais pas me lever tous les jours à 11h parce qu'il n'y a pas de patron derrière qui va m'obliger à le faire. Mais voilà, les tâches sont très très variées parce que bah, à mon niveau, je m'occupe de communication, de gestion administrative, parce qu'il y a l'administratif, la compta à faire aussi, de correction éditoriale, de relecture de BAT, de lecture de manuscrits pour le comité de lecture. Donc voilà, c'est très très varié et donc il n'y a pas vraiment de journée type. C'est un peu, il y a des journées où on est en salon et où, donc du coup on va se lever, aller en salon et parler à des gens toute la journée. C'est, ouais, non, il n'y a pas en soi de journée type, mais c'est ça qui est super intéressant en fait. C'est ça qui est super chouette dans le métier d'indépendant et dans le métier d'éditeur.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord. Toi, tu parles de jours, moi je parle d'heures. C'est-à-dire que, en fait, ma journée type, c'est toutes les heures, je change d'activité. Voilà. Alors ça, c'est un reliquat de... J'étais un enfant hyperactif, donc je me fais chier très vite, voilà. Donc quand, au bout d'une heure de relecture de manuscrit, j'en ai marre, il faut que je fasse autre chose. Donc je fais de l'administratif, ou du rangement, ou de la logistique, ou des colis, ou de la comptabilité, ou des réseaux sociaux, ou des visuels, voilà. Finalement, quand je vais en salon, c'est là où je pars pour faire une chose et qui va me prendre toute la journée. Finalement, c'est là où l'activité se concentre un peu sur faire la promotion, défendre, ben, finalement défendre tout ce que tu as fait toute la semaine en fait. Voilà. C'est un peu là que ça se joue, quoi, parce que s'il n'y a pas de débouché, s'il n'y a pas de lecteur, ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est vrai que en fait, la journée type, c'est celle où je ne sais pas ce qui va se passer.
Au niveau, j'ai vu, chez Faute de Frappe, vous faites du coup des collections jeunesse au niveau de l'horreur, des collections adultes aussi. Est-ce que vous avez des collections un peu intermédiaires qui seraient plus axées jeunes adultes au niveau horreur aussi, ou c'est pas encore dans les...
Pour le coup, Quai des Cauchemars, qui est notre collection jeunesse, il y a un peu de branches dans Quai des Cauchemars. C'est-à-dire que tu as la branche, on va dire, 8-12 ans, où là, on est vraiment voilà, pour enfants. Mais certains Quai des Cauchemars, on serait sur du 12-15. En fait, l'idée, c'est d'avoir... Je pensais peut-être à créer une sorte de label un peu Cauchemar Plus, c'est-à-dire voilà, de ne pas changer le nom, de ne pas changer le genre, parce que l'idée, c'est de faire... Alors, c'est parti comme un hommage à Chair de Poule, mais en fait, Chair de Poule, c'est plutôt la partie plus enfantine, on va dire. Mais l'idée, c'est d'avoir des bouquins un peu plus dark, un peu plus... alors, trash, bon, le mot est peut-être fort, mais trash light, voilà. D'avoir aussi, voilà, pour les 12-15. Et en fait, il y a des bouquins qu'on étiquette adultes, et pareil, on se rend compte que ça plaît aux ados. Je prends juste un exemple, et après je te laisse la parole. Un bouquin qui s'appelle Enfance, qui est un recueil qu'on a sorti donc, de Frédéric Livens, un de tes compatriotes, qu'on a sorti à l'automne dernier, qui est un recueil de nouvelles fantastiques, horrifiques, sur le thème des peurs de l'enfance. Fred l'a écrit pour les adultes. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que les ados, enfin que le public, la tranche de public qui était le plus intéressé par ce bouquin était en fait ceux qui venaient à peine de sortir de l'enfance, mais qui... ça les talonnait encore un peu, quoi. Et ils avaient 14, 15 ans, 16 ans max, en fait. Alors qu'à la base, ça n'a pas été conçu pour eux. Encore une fois, comme pour Kurtz, voilà. Et c'est vrai que des fois, tu te fais... c'est aussi ça qui est dur quand t'es éditeur, c'est que tu sélectionnes un texte, t'as envie de travailler dessus, t'as envie de le défendre, t'as envie de le vendre, t'as envie de le publier, et tu dis, il faut forcément le mettre dans une case, t'as pas le choix, en fait. Mais des fois, la case que tu lui assignes, si tu as de la chance, ça va. Et des fois, en fait, tu te rends compte qu'il est un peu entre deux cases. Alors, voilà, il faut pas se rater, quoi.
Après, j'avais des questions un petit peu plus au niveau technique, conseil auteur. Je suis pas mal sur pas mal de réseaux sociaux, vu que je suis ma main autrice. Du coup, je suis pas mal d'auteurs et d'autrices. Et je vois pas mal de choses qui reviennent chez les auteurs. J'ai eu le coup la dernière fois de quelqu'un qui posait la question, par exemple, est-ce que j'ai reçu un refus type, est-ce que c'est ça le fait ou pas d'envoyer un message pour demander plus de précision ?
Moi, ma vision sur le sujet, elle a évolué au fur et à mesure de la maison d'édition, en fait, parce qu'au début, pendant les trois premières années, j'envoyais des refus argumentés, donc à savoir que les refus sont beaucoup plus difficiles à envoyer qu'une acceptation. L'acceptation, à la limite, il suffit d'envoyer un mail en disant « Hey, c'était super, c'est pris, on se téléphone dans une semaine et on en discute ». Ça suffit, l'auteur, voilà. Le refus, on ne peut pas juste envoyer « non ». Donc quand... oui, mais bon. Donc au début, j'envoyais des refus argumentés, et à savoir que plus le manuscrit était entre guillemets mauvais, alors mauvais à mon goût personnel évidemment, parce que c'est toujours ça, plus je poussais le vice à le lire longuement jusqu'à la fin en fait. Les manuscrits, les trois premières années, je les lisais vraiment jusqu'à la dernière phrase, pour répondre à l'auteur et lui expliquer pourquoi ça n'allait pas. Et la troisième année, en fait, je me rappelle des chiffres, parce que c'est vraiment cette année-là où j'ai décidé d'arrêter de le faire. On a reçu 256 manuscrits, on en a sélectionné 4, et donc j'ai envoyé 252 lettres de refus, mais lettres de refus argumentées, donc ça m'a pris un mois complet. Et sur les 252, il y en a 4 aussi, qui m'ont répondu « Eh ben, merci beaucoup pour ça, parce que voilà, ça va me permettre de retravailler le texte, et c'était super intéressant, et tout le monde le fait pas, et voilà ». À titre purement personnel et égoïste et égocentrique, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ben voilà, c'est cool, les gens apprécient ce que j'ai fait. Mais il faut bien se rendre compte que ça veut dire qu'il y a 248 autres qui se sont dit, c'est qui cette grosse conne qui n'a pas compris que j'avais écrit le prochain concours. Il y en a qui m'ont répondu par la suite en me disant textuellement ça. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience que, ben oui, c'est bien de le faire et ça m'a fait plaisir de le faire les trois premières années où je l'ai fait. Et ça m'a fait plaisir pour les quatre. Mais on n'a pas le temps, en fait. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'éditer. C'est pas de faire des bêta-lectures. C'est pas de faire des retours éditos. Il y a des relecteurs et des relecteurs professionnels qui font ça, dont c'est le métier, et qui permettent d'améliorer un texte. Mais nous, on n'a pas le temps ni les moyens. Et tu le disais, quand on est une petite maison d'édition, c'est vraiment pas possible de le faire. Donc à partir de là, j'ai fait des retours complets. Je vais pas dire lambda, parce que quand vraiment je me rappelais du texte et que ça me prenait 3 secondes pour expliquer vraiment s'il y avait une raison bien précise de pourquoi ça n'allait pas, je le mettais. Mais sinon, on avait... maintenant, on envoie des lettres types, entre guillemets, enfin des mails types. Et pour le fait de relancer, elle peut relancer parce qu'en soi, au pire du pire, ce qui peut arriver, c'est que l'éditeur, il se dise « Ouais, et hop, le mail, il va aller directement dans la corbeille. » Je pense que personne ne va prendre le nom de l'autrice et se dire « Ok, celle-là, liste rouge, c'est une chiante. » Personne ne va prendre le temps de le faire, donc c'est pas dangereux en soi pour le reste de sa carrière. Mais ça va pas être utile, je pense, en tout cas. C'est vrai que c'est dommage en soi, parce que ça nous est déjà arrivé, en fait, de faire un retour. On a des belles surprises, parfois, parce qu'on a fait une fois un retour très détaillé, pour expliquer, ben voilà, c'est un auteur de la maison, en plus, Gellert Kemp, que tu édites aussi, Marc.
On te cite.
on te cite. Et en fait, il nous a envoyé un manuscrit, et on trouvait qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Donc on lui a listé, on lui a vraiment fait un retour complet, et il m'avait dit qu'il y a une autre maison d'édition qui était potentiellement intéressée, en fait. Donc je savais que le retour, je le faisais à la rigueur pour faciliter le travail de quelqu'un d'autre et d'un collègue, mais on s'est dit, ben c'est pas grave, on va le faire quand même, parce que voilà. Et en fait, il a retravaillé son texte, il a refusé l'autre contrat et il nous l'a reproposé derrière. Et finalement, on l'a édité parce que voilà, il avait fait un travail super dessus. Donc voilà, il y a un peu... Mais donc la question de base, parce que je digresse beaucoup, je suis désolée. Oui, elle peut le faire, ça va pas être dangereux en soi, mais il faut bien se rendre compte que si on avait les moyens de le faire directement, bah, on le ferait en fait. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que vraiment, on n'a pas le temps.
Parenthèse dans la parenthèse, l'autre éditeur, c'était moi en fait.
C'est vrai ?
Voilà.
Excellent !
Voilà.
C'est terrible.
Et simplement, il m'a dit, j'ai reçu un retour de l'ivresse, argumenté. Ils ont été les premiers à qui je l'ai envoyé. Le retour est argumenté. Il me demande de le retravailler. Est-ce que ça te dérange si, bah finalement, si je le retravaille et que je leur propose et qu'ils me disent oui, je le fasse plutôt avec eux. Je dis, bah, ouf, moi, ça me... Voilà. Ça me paraissait assez honnête, en fait, de sa part. Voilà. Fin de la parenthèse. Autre parenthèse, non, je ne pense pas que ce soit un frein si elle leur écrit. Au pire, elle n'a pas de réponse. peu importe, voilà. Après, sur les retours, alors là, c'est pareil. Tu démarres ta maison d'édition, tu reçois 3 manuscrits par semaine, c'est pas grave, tu vois. Tu peux prendre le temps de répondre. T'en reçois 3 par jour, c'est déjà un peu plus compliqué. Puis après, 10 par jour, bon, bah, là, c'est plus possible. Mais tout comme tout à l'heure, on parlait des gens que ça ne dérange pas de payer pour se faire éditer, et t'as beau leur dire que c'est une arnaque, et ils vont quand même. Il y a un autre argument que je vois passer de temps en temps sur les réseaux sociaux. Ce sont des auteurs qui se plaignent qu'on ait refusé leur manuscrit parce que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Et ils trouvent que ce n'est pas un bon argument. Je vais vous répondre, là, ce soir, c'est un bon argument, bande de cons. Voilà. Parce que clairement, si moi je publie du thriller et de l'horreur et que tu m'envoies de la fantasy, ça ne correspond pas à ma ligne éditoriale. Tu m'envoies de la SF, ça ne correspond pas. Ou du roman, ou de la poésie. Donc, ne pas correspondre à une ligne éditoriale est un argument suffisant pour ne pas être sélectionné. C'est pas personnel, c'est on t'en veut pas, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est que si ça ne correspond pas à ce qu'on publie, on ne va pas le publier, ça ne va pas nous intéresser. On ne saura pas forcément le défendre aussi bien qu'un éditeur qui en publie. Donc c'est un argument. Et donc chaque fois que je vois passer ça, ça m'énerve un peu. Voilà. Ça m'énerve un peu. Et après, plus ça va, plus honnêtement, j'en viens à faire des retours types, en toute franchise. Hein, voilà. Pour plein de raisons déjà évoquées, quoi. Le manque de temps, ça ne correspond pas à la ligne. Par contre, si je lis que ça me plaît, que ça correspond à la ligne, mais qu'il y a encore beaucoup de boulot, là, il a déjà passé quelques étapes. Et là on peut discuter. Voilà. Mais pas avant. Pas avant, parce que clairement, sinon, on y passerait toute la journée, en fait.
Et puis, j'ajoute, parce que tu dis, si ça ne correspond pas à la ligne, on ne va pas l'accepter. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Si ça ne correspond pas à la ligne, on ne va pas le lire. On va même pas le faire rentrer en comité de lecture.
Tu vas pas te faire que des.
Alors oui, je sais, mais c'est pas un problème. Mon Dieu, c'est pas un problème. On est spécialisé en imaginaire, c'est très très large. Alors je peux faire des exceptions. Par exemple, on va m'envoyer de la romantaisie, on va m'envoyer des choses un petit peu tangentes comme ça. Ok. On m'envoie de la poésie. C'est même pas que ça frôle la ligne éditoriale, c'est que c'est à 300 km de ma ligne éditoriale. Je sais que j'ai pas les moyens pour le publier correctement, j'ai pas les moyens pour le mettre en valeur, j'ai pas la communauté qui va suivre derrière.
Et j'en ai pas envie.
Mais donc voilà, ça fait pas de sens de le lire et on est quand même débordé. Les éditeurs, on en parle souvent, mais les éditeurs ont toujours cette image un petit peu de gens qui en foutent pas une et qui ramassent la plus grosse part du gâteau. Non, non, non. On travaille énormément et le temps, je regrette, il n'est pas...
C'est vrai qu'on ramasse la plus grosse part, mais on la mérite.
Alors, ça dépend. Mais c'est la Poste qui ramasse la plus grosse part. Ah, oui. Autre débat. Mais voilà, le temps est limité. On ne peut pas tout lire et je regrette. Quand ça sort vraiment complètement de la ligne éditoriale et que c'est clairement dit sur le site internet, on publie pas de poésie, mais que vous nous envoyez quand même de la poésie, ben ce sera pas lu et c'est pas un manque de respect, c'est juste vous qui n'avez pas respecté les règles à la base en fait.
Et d'ailleurs, puisqu'on en est au conseil pour les jeunes auteurs, les choses à faire et à ne pas faire, ne soyez pas trop exhaustif dans vos mails d'envoi de textes, parce que justement, à vouloir trop en dire, on peut décider dès la lecture du mail que ça ne nous correspond pas. Alors que peut-être qu'en lisant le texte, ce sera différent. Donc n'en dites pas trop.
Mais ce qu'il faut faire, c'est lire. Toutes les maisons d'édition quasiment ont une page dédiée à qu'est-ce qu'il faut faire pour nous envoyer un manuscrit. Et il faut lire en fait simplement parce qu'il y a des éditeurs qui vont demander très peu de détails. Il y a d'autres éditeurs qui vont demander un synopsis détaillé avec balancez-moi la fin et donnez-moi plein de détails. Donc il faut vraiment respecter les consignes des éditeurs. Alors c'est un travail long, c'est un travail chiant et ça prend du temps. Ça, je suis bien d'accord pour l'avoir fait et très mal à mes débuts en 2012. Mais il faut le faire et franchement, c'est passer la première étape de la bonne façon en fait. Parce que si on reçoit un mail où on voit que vous avez respecté ce qu'on demande, pas de police fantaisiste, pas d'écriture 8, où il faut une loupe pour arriver à vous lire, et que ça respecte la ligne éditoriale, ben vous avez déjà fait énormément d'étapes, mine de rien.
Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu en appétit et teaser alors soit vos nouvelles sorties, soit vos prochaines sorties qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent chez l'Ivresse et chez La Faute de Frappe en ce moment?
Écoute, alors c'est marrant parce que je vais démarrer par un truc qui nous concerne tous les deux.
Ah ben ouais,
et voilà, parce qu'on ne fait pas juste semblant de bien s'aimer. En fait aussi, on fait semblant de bosser ensemble. En fait, alors l'année dernière, j'avais sorti un bouquin sur la collection Gore, qui s'appelle Gore, dissection d'une collection. Donc une collection d'horreur du fleuve noir des années 80. Et à l'occasion de ce bouquin, donc thématique sur la collection, on avait sorti un recueil de nouvelles qui s'appelait Nos plus beaux effets Gore, de 23 textes, à peu près moitié d'auteurs qui y avaient écrit dans la collection et moitié d'auteurs contemporains. Et en fait, ça a été bien accueilli, ça nous a beaucoup fait marrer, surtout moi, hein, j'étais le premier à m'éclater, à un point que je me suis dit, je vais lancer le volume 2. Le volume 2 qui sort, donc qui s'appelle Nos plus beaux effets 2, qui sort à la fin du mois, qui est encore en précommande, hein, je glisse ça, même si je ne sais pas s'il le sera encore au moment de la diffusion, mais... Tant pis. Donc, qui est un recueil d'horreur de 23 textes. Alors, si je dis que ça nous concerne tous les deux, vous l'avez deviné, c'est que Émilie, tu es dedans. Voilà. Alors, je suis dedans aussi sous un de mes noms de plume. Donc, 23 nouveaux textes, 23 textes inédits, à peu près un tiers d'auteurs qui étaient dans le premier et deux tiers de nouveaux, dont tu fais partie. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie recueil. Et je vais faire rapidos. La collection compacte, donc novélisation de films d'horreur, continue. Et donc le 29 mai, en même temps que Nos plus beaux effets d'eau, sort Slugs, qui est un roman d'attaque animale, voilà, qui a été adapté au cinéma dans les années 80, qui a lui aussi été publié au Fleuve Noir dans les années 80 et chez Bragelonne dans les années 2010, et qui revient là, donc dans une nouvelle traduction et en texte intégral. Et c'est assez dégueulasse, mais je vous le conseille.
Pour l'Ivresse édition, moi je vais parler du volume 2 de Loving Reaper, qui est, alors on est le quantième. Il est en précommande jusqu'au 20 mai, donc je pense, sans me tromper, qu'il reste quelques jours, mais qui sera toujours disponible après. Mais voilà, on a eu ce gros succès de Loving Reaper premier volume, et donc là on lance le deuxième par l'artiste allemande Jenny Ginia. Loving Reaper qui est une série d'histoires courtes, illustrées, pour sensibiliser à la cause animale. Donc ça, c'est vraiment notre grosse sortie de cette année. On lance notre collection poche. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'y réfléchis. Là, ça y est, c'est fait. On a lancé notre collection poche qui s'appelle Discord, avec des textes pour public plus ou moins avertis. Mais on va rester sur du public adulte. Avec la première autrice qui est dedans, qui est Morgane Cossérieux, et le deuxième auteur qui est Jack Machio. Donc voilà, les deux premiers titres sortiront aux Imaginales.
Je me permets d'ajouter que Morgane est aussi dans Nos plus beaux effets 2.
Tout se rejoint.
Tout est lié. Hein,
tout est lié. Voilà. Puis bah, sinon, on a lancé la saga Le Crépuscule du Rêvant de Gilles de Bouvry. Donc là, on s'est lancé sur une saga de 6 tomes, à raison de un tome tous les 6 mois. On va essayer de garder une cadence assez...
T'aimes bien les paris, toi.
J'aime bien, j'adore ça. Non mais les 6 étaient déjà écrits. Hein. Donc le pari était moins risqué. Voilà, et puis on a quelques titres jeunesse qui sortent cette année, notamment la saga Sam, dans notre collection Première Lecture de Salima Tiamani, le quatrième tome de Nils et les Trois Mondes, Loki, de Bertrand Crappé. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. On a des petits jeunesses aussi qui vont sortir, mais ça, on ne les a pas encore annoncés officiellement, donc on va simplement dire qu'il y a Céline Saint-Charles et Essa William qui reviennent chez nous pour des albums illustrés. Je vais aussi citer les illustratrices, sinon c'est pas sympa. Il y a Lou avec Essa William et Alexélie Cardin avec Céline Saint-Charles. Donc ça, ce sera pour les albums. Et je pense que là, j'ai fait un peu le tour. Et on a une petite nouveauté en album jeunesse qui est Barnabé le Moustique de Jack Machio et Tony Rochon.
Et on peut dire évidemment que allez voir assez régulièrement sur nos sites internet ou sur nos réseaux sociaux. Parce que là, moi, j'ai parlé des sorties de la fin mai. J'ai pas du tout parlé de la rentrée ni de l'automne. Il va y avoir du lourd, mais vous n'en saurez rien pour l'instant. Voilà.
Merci Émilie Anciot des éditions Livresse, Marc Falvo des éditions Faute de Frappe et au Légendarium à Arras. Entretien réalisé le 17 mai 2024 dans le cadre du festival Olé Livre. À bientôt! We'll be right back.
just too